J'enlève mon masque hein, parce que, à cause de la buée, je ne peux pas lire ce que j'ai écrit. Voilà. Oui, c'est vrai que d'ici, on voit mieux l'Assemblée et que c'est vraiment une grâce. Hein. Alors, j'ai pas vu Jean-Haut cette semaine, je le regrette, mais tout ce qu'il a dit, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc, il y a une unité quand même de l'esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. Je disais dernièrement à Wardia, qui est ma femme, et à mes filles, la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, la plus belle rencontre que j'ai jamais faite dans ma vie, c'est celle de Dieu. C'est vrai, hein ? Bon, alors, peut-être que pour mes filles et ma femme, elles se sont dit, ouais, c'était peut-être nous la meilleure rencontre. Mais pourquoi ? Parce que grâce à lui, ben, j'ai pu épouser Wardia, et puis j'ai pu avoir trois merveilleuses filles. Sans lui, frères et sœurs, ben, je ne sais pas où je serais à l'heure actuelle, et peut-être que je ne serais même plus de ce monde. Tant ma vie sans Dieu était une vie vraiment compliquée. Alors pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Eh bien parce que la rencontre personnelle avec Dieu, elle a bouleversé plus d'une vie, et en particulier celle de Saul de Tarse. Bon, c'est pas son nom, Saul de Tarse, hein. Il vient de Tarse, la ville. Et suite à cette rencontre, Saul de Tarse deviendra l'apôtre Paul. Alors sa rencontre avec Dieu a déclenché un véritable cataclysme dans sa vie, et il en a largement témoigné devant les autorités juives et même les autorités romaines. Dieu, en le rencontrant et en l'utilisant pour sa gloire, a fait d'un persécuteur de l'Église un très beau et très grand serviteur de Dieu. Ce matin, moi, je vous propose ce thème « Témoigner de Dieu, vivre Dieu ». Franchement, je me suis réveillé un matin et j'ai eu ce titre dans la tête « Témoigner de Dieu, vivre Dieu ». Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que je peux dire sur un truc comme ça ?» Enfin, Dieu, il m'a mis à cœur de dire des choses. Vous savez, le roi David, dans le psaume 40, versets 10 et 11, a écrit, dans la grande assemblée, comme celle de Vendeuvre ce matin, « J'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur, comme un secret, la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien haut combien tu es fidèle, fidèle, et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité, dans la grande assemblée. » Alors chaque chrétienne, chaque chrétien, à l'image de l'apôtre Paul, a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Chaque chrétienne, chaque chrétien, à l'instar de David, est animé de l'envie de témoigner en toute occasion la grâce puissante que Dieu lui a faite en Jésus-Christ. N'est-ce pas ? Alors revenons à Saul de Tarse. Lui, il appartenait à une grande famille juive de Cilicie. Très jeune, il s'est montré zélé pour Dieu et son père l'a envoyé très tôt à Jérusalem où il a reçu une éducation religieuse, mais vraiment stricte, qui l'ancra profondément dans les traditions pharisiennes. Et d'ailleurs, il écrira dans Actes 22, verset 3, « Gamaliel, qui était un théologien juif, fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres. Et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu. » Voilà, lui, ce qu'il avait envie, c'était de défendre Dieu. Dès lors, le jeune Saul, jeune homme brillant au demeurant, doué, préparé à remplir de hautes fonctions religieuses, va tout naturellement entrer dans le grand conseil juif, dont il va devenir un membre très actif, un pilier. Dans l'épître aux Galates, chapitre 1, verset 14, il avouera « Dans la pratique du judaïsme, j'allais beaucoup plus loin que la plupart des juifs de ma génération, et j'étais bien plus zélé qu'eux pour la tradition que j'avais reçue de mes ancêtres. » Il ira même jusqu'à dire « Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. » Alors, comme vous le voyez, Saul avait tout d'un jeune homme exemplaire, sans problème particulier. On dirait aujourd'hui que c'était un gendre idéal, un gendre parfait. Beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre se sentent comme Saul, des gens bien, sans problème et sans reproche. Alors, bien sûr, ils savent qu'ils ne sont pas parfaits. Mais dites-moi, mon bon monsieur, qui est parfait sur cette terre ? Personne n'est parfait. En réalité, nous sommes nos propres juges. Moi, je m'apprécie et je me compare aux autres. Et puis, c'est la société qui détermine ce qui est bien ou mal, acceptable ou pas. C'est elle qui détermine, c'est pas Dieu. En réalité, ni Saul, ni sa famille, ni même les religieux juifs de son époque n'ont pris conscience que ce jeune homme, bien sous tout rapport, était un pécheur qui combattait Dieu. Alors, vous l'avez compris, Saul est un religieux convaincu. Dans son témoignage, il avouera « J'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens possibles au nom de Jésus de Nazareth. » Alors, c'est sûr qu'il l'a pas fait par méchanceté, non. Il l'a fait par zèle pour Dieu. En effet, pour lui, Jésus, c'est un usurpateur qui se fait passer pour le Christ. Il essaye de détourner les Juifs de l'enseignement donné par Dieu à Moïse. Voilà sa position. Alors pour Dieu, dit Paul dans son témoignage, « Eh bien, je suis allé même jusqu'à jeter en prison, en vertu des pouvoirs que j'ai reçus des chefs et des prêtres, un grand nombre de ceux qui appartenaient à ce Jésus. Et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. » Saul était, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Haut, un véritable inquisiteur. Il a participé à l'assassinat d'Étienne, pas le nôtre, heureusement, même s'il l'a fait pour la bonne cause, s'il l'a fait pour Dieu. Il poursuit en disant « Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. » À aucun moment, Saul ne se sent coupable. À aucun moment, il ne se remet en question devant Dieu. Pour lui, ce qu'il fait, c'est juste. Les religieux le soutiennent, il empêche le peuple de se détourner de Dieu. Et dans son témoignage, encore, l'apôtre Paul ne passera jamais sous silence sa vie passée. Il écrit ceci, dans Galates 1,13. « Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. » Vous rendez compte ? Lorsque nous témoignons, lorsque nous parlons de l'œuvre de Dieu dans nos vies, nous devons toujours rappeler qui nous étions avant notre rencontre avec Dieu. Ce monde a besoin d'entendre des témoignages forts, mais surtout marqués d'authenticité, sans concession pour le péché qui nous sépare de la présence de Dieu. Alors, en réalité, frères et sœurs, après notre rencontre avec Dieu, nous devenons la véritable conscience du monde qui se perd et qui n'en a nullement, elle, conscience. Je me souviens qu'avant ma rencontre avec Jésus-Christ, lorsqu'on me disait « Daniel, tu as besoin d'un sauveur, tu es perdu !» Moi, qu'est-ce que je disais ? Je répondais avec franchise, mais pour être sauvé de quoi ? Je ne me sentais pas du tout pécheur, moi. Le péché, vous savez, c'est quelque chose d'insidieux, d'invisible, mais il nous conduit tout droit en enfer. Parler, témoigner de notre passé peut, pour certains, paraître ringard, inutile. À quoi bon parler des choses anciennes qui sont déjà passées, qui ont disparu ? Au contraire, pour bien apprécier qui nous sommes, aujourd'hui, c'est bien de se rappeler qui nous avons été. Alors, le grand paradoxe de Saul, le religieux zélé, c'est qu'il aime Dieu, qu'il le sait religieusement, mais qu'il combat en même temps et sans merci Jésus de Nazareth et ses disciples. Or, vous le savez toutes et tous, Jean 10, 30, « Moi et le Père, dit Jésus, nous ne sommes qu'un. » Voilà. Alors, comment peut-on aimer celui qu'on persécute et comment peut-on persécuter celui qu'on aime ? Parce que Saul ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne croit pas que Jésus est le Messie. Absolument personne humainement ne peut convaincre Saul, personne, de la déité de Jésus. C'est un homme aveugle et sourd aux grandes vérités spirituelles, comme ça arrive dans ce monde. Seule l'intervention de Dieu dans sa vie peut changer sa vision erronée des choses. En réalité, aucun être humain n'est capable par lui-même de venir à Dieu. Vous le savez, ça. Ce ne sont pas les perdus qui cherchent Dieu, car ils ignorent qu'ils sont perdus. Et si ça avait été perdu, ils viendraient à Dieu. Mais c'est Dieu qui vient les chercher. Dans le psaume 14, verset 2, on peut lire, vous savez, « Du ciel, Dieu observe tout le genre humain. » Et il dit, « Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ?» Est-ce qu'il y en a un? Eh bien, il dit non, ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus, aucun ne fait le bien, il n'y en a pas même un seul, pas même un. Tous se sont fourvoyés, tous se sont corrompus, tous sont dominés par le péché. Même un homme comme Saul ne trouve pas grâce aux yeux de Dieu, alors qu'il est censé le servir. Nos certitudes peuvent aussi nous égarer. C'est donc Dieu qui, en Jésus-Christ, vient chercher l'homme perdu. Dans sa défense devant le roi Agrippa, dans Actes 26, 12, Paul dit « Un jour, je me suis rendu à Damas, avec les pleins pouvoirs accordés par les chefs. J'étais en chemin, et il était environ midi, lorsque j'ai vu au roi une lumière venant du ciel, plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat, ainsi que mes compagnons de voyage. » Nous sommes tous tombés à terre, et j'entendis une voix qui me disait, en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Dans son témoignage, Saul décrit une rencontre incroyable, du troisième type, quoi. Cette lumière plus éclatante que celle du soleil nous fait forcément penser à la lumière du monde descendu des cieux pour venir éclairer tout homme, toute femme. Cette lumière qui les enveloppe est à la fois douceur, mais aussi puissance, car elle les jette à terre. Mais ce n'est pas tout. Car cette puissante lumière, elle parle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? En vérité, il n'y a que peu de doutes sur l'identité de cette voix. Hein? Qui donc, Saul, persécute-t-il? Le pape? Non. Jésus de Nazareth, bien sûr. Et cette voix rajoute, tu te fais du mal à toi-même en me persécutant. Vous savez, ce monde, en refusant Dieu, fait certes du mal à Dieu, mais se fait surtout du mal à lui en premier. Par cette seule vision, Saul, il devrait quand même être convaincu que Jésus est Dieu et qu'il vient de lui parler. Ben non. Sa résistance, elle est maximum. Ses freins sont bloqués, son aveuglement persiste. Et bien souvent, dans le monde, c'est des choses qui se passent. Hein. Je me demandais, dit Saul, « Qui es-tu, Seigneur ?» Voilà, il pose encore la question. « Qui es-tu, Seigneur ?» Peut-être Saul espère-t-il encore que cette voix n'est pas celle de Jésus. Alors la voix lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ah, il n'y a plus de mystère, là. L'être humain montre une résistance incroyable à la vérité. Alors, moi, je vous ai déjà raconté ma propre rencontre avec le Seigneur. Vous savez, moi qui suis qu'un modeste chrétien et qui n'arrive pas à la cheville de l'apôtre Paul, moi, je suis tout petit par rapport à lui. Mais en même temps, j'ai la même place que lui dans le cœur de Dieu. Vous voyez? Alors je m'excuse pour ceux à qui j'ai déjà raconté mon témoignage, mais je vais leur dire un petit peu. Je traversais une période noire de ma vie. Je venais de rompre avec Wardia, qui était ma petite copine de l'époque. Et j'ai sombré dans une terrible dépression dont je n'arrivais pas à sortir. Je ne dormais presque plus, je ne mangeais à peine, et je pleurais toute la journée. Et malgré tous mes efforts, j'arrivais pas à m'en sortir. Impossible. Il y avait bien une collègue de travail évangélique qui m'avait dit, elle connaissait un petit peu mon problème, elle m'avait dit, mais confie-toi à Jésus, remets-lui ton fardeau, et il t'aidera. » Et moi, je lui avais répondu, « Tu sais, moi, je suis catholique, je connais Dieu. En quoi est-ce que j'ai besoin de ton Jésus-Christ, hein ?» Et j'ai souffert ainsi pendant 6 mois. Et puis, je suis parti avec un ami en Équateur pour me changer les idées. Vous savez, Quito, c'est une très, très belle ville bariolée, multicolore. Mais moi, je voyais tout en noir. Un soir, dans un petit hôtel, alors que j'étais au bout du rouleau, je me suis souvenu de ce que m'avait dit ma collègue. Et vous voyez, c'est bien quand les gens nous parlent, parce que sur le coup, on les renvoie comme ça, on les rembarre, mais après on se souvient. Et je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait dit. Alors je me suis mis à genoux dans la douche et j'ai dit, « Jésus, si tu es vivant, viens-moi en aide. » Frères et sœurs, moi, j'ai pas vu de lumière, on m'a pas parlé en araméen, mais j'ai clairement entendu la même voix que Saul. Frères, sœurs, j'ai entendu cette voix qui m'a dit, « Daniel, pourquoi écoutes-tu Satan ?» Voilà, je l'ai entendu. Cette voix, elle a duré environ 5 secondes. Mais elle a complètement bouleversé ma vie. Et je ne l'oublierai jamais. Et chaque fois que je témoigne, j'ai envie de pleurer, quoi. Pour moi, la voix de Jésus, eh ben, je la ressens comme douce. Mais en même temps, elle est ferme. Je l'ai ressentie pleine d'autorité. Elle rassure, elle sécurise. Touche le cœur et elle appelle à une décision, c'est le suivre. Et moi, j'avais qu'une décision à prendre, c'était le suivre. Frères, sœurs, Jésus a appelé Saul par son nom et il m'a appelé Daniel. Il aurait pu me dire, « Eh, petit gars, eh, mec. » Non, il avait du respect pour nous. Et il peut appeler chacun par son prénom. Il peut appeler Grâce, il peut appeler Brigitte, Dominique, Samuel. Jésus, Dieu, nous connaît par notre nom. Ésaïe 43.1 « Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Maintenant, tu es à moi. » À partir de ce moment, Saul, mais vous et moi, que Dieu a appelé, nous appartenons à Dieu. Car nous l'avons reçu. Saul dit, la voix m'a dit, « Lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu. » Acte 26, versets 15 et 16. Témoigner aux hommes que tu m'as vus. Nous sommes des témoins. Et la première chose que Jésus nous appelle à faire, c'est témoigner. Paul va témoigner, vous témoignez, je témoigne ce matin, même si aucun de nous n'a le même témoignage, car nous sommes toutes et tous différents. Il ne faut pas avoir honte de témoigner de ce que Dieu a fait. Témoigner, c'est rendre gloire à Dieu, à Jésus-Christ, qui nous a sauvés par sa mort à la croix et qui est venu nous rencontrer pour nous rendre libres. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, l'introduit de cette manière. Et ça, c'est relisez-la, c'est magnifique. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Si Jean qui a vécu avec Jésus, si Saul qui l'a rencontré sur la route de Damas se sont mués en témoins du Christ, combien nous-mêmes, eh bien, devons-nous témoigner de ce que Dieu nous a rencontré en Jésus-Christ? On doit en témoigner. Il a libéré Saul du carcan qui le tenait prisonnier du péché, il l'a délivré de la religion, du mensonge et même de la violence. Moi, il m'a délivré... Moi, Daniel, du collier de servitude qui faisait de moi un auditeur et un serviteur de Satan, sans que je le sache. Il vous a chacune, chacun rendu libre, vous qui avez rencontré Jésus-Christ. Soyons ses témoins, soyons-le. Alors peut-être me direz-vous, pourquoi Jésus ne rencontre-t-il pas tout le monde comme il a rencontré Saul ? Ce que l'on sait, c'est que cet homme était quand même quelqu'un de sincère. Mais il était obtus. Alors, on peut s'interroger sur tous ceux qui accompagnaient Saul. Vous voyez, il y avait du monde autour de lui. Hein. Il y avait des pharisiens. Ils ont vu la lumière et les a enveloppés de la même manière que Saul. tous sont tombés par terre. Ils ont entendu Saul parler à Jésus. Ils ont vu le changement opéré en lui, ils ont vu aussi qu'il était aveugle. Et pourtant, frères et sœurs, combien se sont convertis avec Saul ? Mais ils sont devenus les persécuteurs de Paul. En réalité, si Jésus s'est révélé à Saul, ce n'est pas seulement et simplement pour se faire connaître à lui. Si Jésus s'est révélé à moi, ce n'est pas seulement et simplement pour que je n'écoute plus Satan. Si Jésus vous a rencontré, ce n'est pas uniquement et simplement pour que vous croyiez en lui. Christ a pour nous un projet beaucoup plus ambitieux. C'est de nous transformer pour que nous vivions Dieu. Vivre Dieu, ce n'est pas forcément venir à l'église ou forcément vivre à côté de Dieu. Saul de Tarse a laissé place, après sa rencontre avec Jésus, à l'apôtre Paul, qui va écrire aux chrétiens de Galatie cette exhortation surprenante, pour lui qui était avant un persécuteur, Galates 2:20. Il dit « J'ai été crucifié avec le Christ, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Puis il ajoute « Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » On croit vraiment rêver. Hein. Est-ce que Paul, c'est le même gars que Saul ? Ben non. Saul s'opposait violemment au monde de Jésus de Nazareth, Paul devient apôtre et serviteur de Jésus. Saul persécutait l'Église, Paul fonde et installe de nombreuses églises. Saul mettait en prison et à mort les premiers chrétiens, Paul les encourage, les exhorte, les enseigne. Vous voyez, sa rencontre avec Jésus a totalement transformé Saul. Elle a fait de ce jeune loup féroce un agneau doux et engagé au service du Christ. Saul est mort, crucifié avec Christ, il renaît, il ressuscite en Paul, nouvelle créature au service de Dieu, au service du Christ. C'est hallucinant, hein ? Chaque chrétienne, chaque chrétien qui a fait une rencontre authentique avec Jésus-Christ est devenu une nouvelle créature et a forcément reçu le Saint-Esprit qui témoigne qu'il appartient maintenant à Christ. Et moi, dit Jésus, je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur que Jésus, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir. Mais vous, vous le connaissez, car il sera auprès de vous et il demeurera en vous. Jean 14, versets 15 à 17. Alors, si Saul est crucifié, il ne faut pas le ressusciter. Nous, on a des fois tendance à ressusciter notre ancienne nature. Paul, lui, est bien vivant et reste uni à Christ par sa foi en lui. Alors, vous l'avez bien compris, Jésus et le Saint-Esprit ne font qu'un, même s'ils sont deux personnes différentes. Galates 4:6. Puisque vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit de Jésus-Christ. Voilà, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Cet Esprit ne va pas rester inactif. Quand Paul dit « ce n'est plus moi, Saul, qui vit », il dit « c'est l'Esprit du Christ qui est en moi, qui me fait vivre maintenant ». Vous voyez ? Paul, lui, il vit en association, en duo avec le Saint-Esprit. Encore, faut-il respecter cette association ? Voilà ce que dit Paul aux Galates. « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir de la nature pécheresse ». C'est-à-dire celle qui animait Saul, c'est-à-dire notre ancienne nature à nous. Laisser le Saint-Esprit diriger notre vie, c'est avant tout ne pas s'opposer à son action de transformation et d'édification, c'est-à-dire de construction. Le laisser faire. L'Esprit nous transforme, il nous transforme de fond en comble, des pieds à la tête. Ézéchiel 36, 26, il commence en disant « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, qui était le cœur de Saul, et je vous donnerai un cœur de chair, le cœur tendre de Paul. Vous voyez ? Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous, chrétiens devant d'œuvre, des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent et applique mes commandements. Quel changement de cœur a opéré le Saint-Esprit chez Paul, mais aussi chez nous. Rendez compte, pour qu'il passe de Saul à Paul. Romains 12, 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Vous voyez ce que ça veut dire, modeler par ce monde. Ne vous mettez pas sous l'influence de l'esprit qui anime notre monde, notre société. Mais laissez-vous, par le Saint-Esprit, transformer par le renouvellement de votre pensée, de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Saul suivait la pensée du monde, Paul s'est laissé transformer pour accomplir maintenant la volonté de Dieu. Voilà la différence. Toutes les transformations qu'opère en nous l'Esprit du Christ ont pour but final de nous faire ressembler à Jésus. 2 Corinthiens 3,18, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est l'œuvre de sanctification qui se fait tout au long de notre vie chrétienne. Vous savez, au début de notre vie chrétienne avec Wardia, on sentait la transformation du Saint-Esprit. Et puis, on a eu peur tous les deux. On s'est dit, mais ça ne va pas durer. C'est tellement bon, ça ne va pas pouvoir continuer. Et puis, un jour, on a reçu Jean Comarianos, qui était un évangéliste dans cette église. Et puis, moi, je l'ai reçu à la maison. Puis, je lui ai dit, Jean, on est inquiet avec Wardia parce que c'est tellement bon qu'on a peur que ça ne dure pas. Il m'a regardé, il a ouvert sa Bible. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils vous apprennent dans l'église de Vendôme? Et voilà, il m'a lu Philippiens 1,6. Et il m'a dit, j'en suis fermement convaincu, dit Paul. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, voilà. Oh là, c'est bon. Ça irait jusqu'à la fin. L'Esprit nous construit. L'Esprit nous édifie. Galates 2,20. Ma vie en tant qu'homme, dit Paul, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. La construction de notre vie en Christ, dit Paul, le ciment, c'est la foi, la confiance en Christ, en Dieu. Et je vous pose la question. Comment naît et grandit en nous la foi? Comment? Paul répond à cette question en Romains 10, 17, que je vous invite à lire. « Or la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. » Plus on lit la Bible, vraiment, alors, après on expliquera comment on la lit, et plus on est rempli de foi. La lecture de la Bible, la parole du Christ, la parole inspirée de Dieu, est la nourriture spirituelle qui seule nourrit notre foi, nourrit l'esprit qui est en nous, et nous construit dans une confiance étroite et profonde en Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est rappelé dans le psaume 1. Le psalmiste écrit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Vous trouvez votre plaisir, vous, dans la loi de l'Éternel? Moi, je trouve, par exemple, du plaisir à regarder un bon match de foot. Ou à boire une bonne bière. Mais est-ce que je trouve le même plaisir à lire la loi de l'Éternel? Et qui la médite jour et nuit. C'est pas qui la lit, mais qui la médite jour et nuit. Là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous rendez compte? Lire la parole de Dieu nous rapproche de lui. Nous communique son esprit, nous communique sa pensée, nous construit conformément à sa volonté. Mais il ne faut pas lire la Bible pour le plaisir de la lire, simplement, ou pour faire des performances. Moi, j'ai lu trois chapitres, mais je ne sais pas du tout ce qui était dedans. Vous voyez? Mais c'est, quand on la lit, c'est pour nous imprégner, pour que la parole nous pénètre et nous impacte. Méditer la parole, c'est la creuser, y réfléchir, la redigérer, y penser dans la journée, et puis s'en souvenir la nuit. C'est la pratiquer. On le fait avec Sandrine et avec Marie-Jo et avec Carmela. On médite la Bible tous les jours. Ça nous fait du bien. On peut la lire 30 fois, 40 fois, 100 fois, et toujours y découvrir des choses nouvelles dans la lecture de la Bible. Ce n'est pas comme un livre normal. L'Esprit du Christ nous construit dans une foule d'autres choses. Mais pour terminer, je voudrais vous citer deux choses. Premièrement, l'attribution du fruit de l'Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, dit Paul, vous portez les fruits que l'Esprit vous donne. Et ces fruits, c'est Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Frères, sœurs, est-ce que nous portons tous ces fruits? Et puis, les dons que l'Esprit distribue. L'Esprit distribue des dons spirituels à qui il veut, et parfois à celui qui demande. 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs. Certains chrétiens pensent n'avoir reçu aucun don. Mais quand on n'a pas de don, on ne participe pas aux activités, on n'est pas dans l'église, on ne peut pas faire de choses puisqu'on n'a pas de don. Alors que d'autres pensent les avoir tous. Voilà, il y a des personnes qui font tout dans l'église. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 7, écrit que chacun tient de Dieu au moins un don particulier. Donc on a reçu forcément un don. Il y a donc diversité de dons. Nous avons toutes et tous reçu au moins un don. Mais attention, dit Paul, 1 Corinthiens 14-12, vous qui aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, non pas pour votre gloire personnelle, mais pour les mettre au service de Dieu, des autres, c'est-à-dire de l'Église. Voilà, nous avons reçu des dons pour les mettre au service des autres. Et à ceux qui pensent n'avoir reçu aucun don, donc ce n'est pas possible, moi je les invite à prier pour savoir quel don vraiment ils ont reçu et le mettre au service de l'Église. À celles et ceux qui pensent avoir reçu tous les dons, ben moi je les invite à choisir les dons les meilleurs, ceux dont l'Église a le plus besoin, afin de leur éviter du surmenage, et puis qu'à la fin, ben, ils fassent les choses à contre-cœur. Qu'ils sélectionnent quelques dons que le Saint-Esprit leur a vraiment mis à cœur pour l'Église. Moi, personnellement, je suis chrétien dans l'Église depuis 1986. J'ai participé à toutes les activités de l'Église, et puis j'ai ainsi pu voir ce pourquoi j'avais reçu des dons et ceux sur lesquels je n'en ai pas reçu. Moi, je les ai classés en trois groupes. Mes dons avérés, ceux que j'ai, c'est sûr et certain. Mes dons possibles, ceux que je pourrais faire si vraiment il y avait des manques dans l'Église. Et puis les dons que j'ai reçus. Hein, je n'aimerais jamais chanter ici. Je ne prendrai jamais les responsabilités de la comptabilité ou des sous dans l'Église parce que je mets l'Église en faillite en trois mois. Donc je n'ai pas ces dons-là. Voilà, j'invite toutes celles et ceux qui ne vivent pas tous les événements décrits ce matin et qui souhaitent rencontrer Dieu à lui ouvrir leur cœur ou à se rapprocher d'un responsable d'église pour être aidé, pour vivre ce qu'on doit vivre. Frères, sœurs, l'apôtre Paul termine le chapitre 13 de son épître aux Romains par cette belle exhortation qui va me servir de conclusion. Et je vous demande de vraiment bien la méditer. La nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement, comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne cherchez pas à satisfaire la nature pécheresse qui vous entraîne à convoiter. Amen. Amen. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous invite à prendre un moment pour prier. Oui, Seigneur, merci parce que tu es celui qui change les vies. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Ou celui qui change les vies en mal. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui change les vies en bien. Tu es celui, Seigneur, qui peut transformer un Saul en Paul. Merci, Seigneur, d'opérer vraiment en ceux qui n'ont pas encore fait ce changement. Et merci, Seigneur, de nous amener, nous qui l'avons fait, jusqu'au bout, Seigneur, de cette transformation, à l'image de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tes encouragements. Merci, Seigneur, pour l'Église de Vendeuvre. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu permets, Seigneur, dans cette Église. Que la gloire soit pour ton nom, Seigneur. Amen. Merci.